Mon époque, ma radio. Allô la planète avec Eric Lange sur lemove.fr.
Bonjour tout le monde, bienvenue. Enfin, je dis bonjour, il n'y a plus de bonjour maintenant puisqu'on est que sur Internet, donc il n'y a plus de temporalité. C'est ça qui est bien. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue en tout cas. C'est 60 minutes d'Allô la planète. Réalisé là, maintenant, avec vous, comme d'habitude, où que vous soyez dans le monde, si vous voyagez, si vous êtes en déplacement, si vous habitez quelque part, vous habitez forcément quelque part. Laissez-nous un message, racontez-nous le monde tel qu'il est autour de vous, racontez-nous ce monde que vous rêvez de changer ou pas. Aujourd'hui, émission spéciale, puisqu'on est en studio avec Brian et Morgan, deux des membres de l'équipe Solid Dream, qui ont fait une balade à vélo dans le monde de 3 ans, 4 ans, je sais plus, on va voir avec eux dans un instant. Nous rejoindrons pour parler avec eux dans l'émission Kylian, qui est quelque part en Malaisie, lui fait un tour du monde à pied, ça fait 4-5 ans qu'il est parti aussi. Étienne, qui fait du vélo aussi dans le monde, il est à Bogota. Notre ami Paulin, que l'on suit depuis quelques temps, ça y est, il a traversé l'Atlantique, il est à Salvador de Bahia, lui aussi avec son vélo. Et donc, Solid Dream est avec nous en studio pendant 60 minutes, c'est parti.
Le Move, Allô la planète. Allô la planète, avec Eric Lange.
Bonjour messieurs, ça fait du bien. Alors Morgan, Brian, je sais plus. Morgan, parle bien dans le micro. Et Brian.
Et Brian.
Bonjour, bienvenue. C'est marrant de vous voir. On s'est parlé depuis. Combien de temps? Vous êtes parti combien de temps?
On est parti 3 ans et ça fait 5 mois qu'on est rentré.
Vous êtes parti 3 ans, 3 ans à vélo. Présentez-vous tous les deux. Donc Morgan, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie?
Alors j'ai 29 ans.
Ouais.
J'ai passé les 7 premières années de ma vie à voyager sur un bateau en famille.
Ah bon?
Ouais. Et forcément, j'étais un peu inspiré par.
Tu t'en souviens?
Ah oui, je m'en souviens quand même. Mon père a fait l'effort de filmer, de faire de la photo, qui m'ont permis un peu d'entretenir ma mémoire.
Ouais.
Et certainement de me donner l'envie en fait de reprendre la vie en fait un peu sur les routes
un
ou
peu
sur
nomade,
les mers
comme ça. Ouais. Et tes parents, je fais une petite parenthèse, ils faisaient quoi? Ils avaient décidé de vivre comme des nomades sur un bateau.
Mon père avait eu un passé vraiment d'aventurier. Il était donc parti faire un tour du monde de 5 ans à la voile pour aller jusqu'en Antarctique. Donc il avait vraiment ça. Dans le sang, j'ai envie de dire. Et donc, quand il a rencontré ma mère, il a décidé de continuer de vivre un peu comme ça avec elle et avec les enfants.
Donc, Morgan, 29 ans. Brian?
Brian, 26 ans. Moi, je n'ai pas passé de voyageur au départ, presque prédéfini à ma naissance. Mais Morgan, on se connaît depuis 93. C'était mon voisin. Je suis allé chercher un jour pour aller jouer au foot. Et puis, c'est lui qui m'a donné le goût du voyage. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé ensemble dans ce Tour du Monde à vélo.
Alors, qui veut me résumer un peu cette histoire de Tour du Monde? Morgan? Morgan, allez. Donc, vous êtes parti 3 ans. Donc, c'est en 2010.
C'est ça. Donc, le 29 août 2010, on a quitté la France. Et on est descendu donc le long de l'Espagne pour rejoindre l'Afrique et traverser le Sahara jusqu'au Dakar au Sénégal.
Ouais.
Puis de là, on a traversé l'Atlantique et on est arrivé au Brésil et on est descendu jusqu'à Ushuaia pour embarquer sur le voilier de mon oncle. On avait déjà prévu ça à l'avance. On s'est retrouvé là-bas. Il est arrivé à la voile. Nous, on est arrivé à vélo et on est parti en Antarctique pour une expédition de 40 jours.
Ouais.
Où justement, en fait, on est reparti dans les traces de mon père et de mon oncle et de leurs amis. On a fait une espèce de pèlerinage 30 ans après.
Ensuite, vous êtes remonté.
C'était déjà une expérience assez inoubliable. Quoi.
Après, toute l'Amérique latine.
Voilà, bon, pour faire simple, on est allé donc de la pointe sud, donc Ushuaia, jusqu'à la pointe nord, l'océan Arctique, au nord de l'Alaska. Sur le chemin, on s'est lancé un peu des défis insolites en traversant la forêt amazonienne, donc sur 2500 km. Depuis la Colombie, on a fait du bateau stop pour traverser les Caraïbes et rejoindre le Panama. Puis on a remonté le Mexique, les États-Unis, on a fait l'ascension d'un pic dans la Sierra Nevada. Et le petit truc aussi qui fait sourire les gens, c'est qu'on est arrivé au Canada, on a décidé de descendre les 750 km du Yukon, la rivière fameuse.
Sur un radeau.
Oui, voilà.
On racontera tout ça tout à l'heure. Après, pouf, vous montez jusque tout en haut de l'Alaska. Là.
Voilà, donc là, c'était un objectif d'atteint.
Là, avion, j'imagine.
Tout à fait.
Vous arrivez en Australie.
Voilà.
Il y a toute la traversée. C'est quoi, la Nouvelle-Zélande-Australie?
Oui, Nouvelle-Zélande-Australie, avec l'idée de passer par le centre, donc de traverser l'Outback, qui nous avait un petit peu fait rêver déjà. Donc, on avait envie de l'expérimenter.
Red Heart, hein.
Et puis ensuite, on a pris l'avion pour rejoindre Bangkok. Et de là, l'idée, c'était de faire de Bangkok jusqu'en France par la terre, à vélo. On a juste eu un tout petit souci en Chine avec les administrations. Mais à part ça, on a réussi à faire quasiment l'intégralité par nos propres moyens.
Ouais, la Chine, grosso modo le tracé du Transsibérien. Ah non, il passe au-dessus du Transsibérien.
Plus ouais, une des routes de la soie, parce qu'il y a de nombreuses routes de la soie. Mais...
Le sud, tac, 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 et retour en France. Donc, 3 ans, tout à vélo, pratiquement tout à vélo. Comment, Brian, comment vous avez financé tout ça?
Alors, déjà, on avait assez de moyens pour faire ça nous-mêmes. On a travaillé pendant 2 ans, on n'a pas hésité à s'expatrier pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Donc Morgane bossait au Sénégal, moi je suis parti au Maroc, Bertrand était
attends,
en Suisse.
Attends, mais alors, tout à coup je réalise, t'as 27 ans tu m'as dit
26, bientôt 27, 26,
ouais. Donc 3 ans de voyage, ça faisait 23, et 2 ans de boulot avant, c'est-à-dire que cette idée te trotte dans la tête depuis, toi t'as 21 ans alors.
Ouais, enfin... Ouais. Ouais, un peu avant, mais c'est un projet de longue date. C'est 3 ans de voyage effectif, mais il y a 2 ans de préparation en amont. Et bientôt aujourd'hui, là, on est en train d'essayer de capitaliser un peu sur ce voyage. Mais pour parler de la phase de préparation, donc, comme je disais, c'est à peu près un coût de 20 000 euros par personne pour 3 ans.
Ouais.
Et donc, on avait assez de fonds propres pour faire ça nous-mêmes. Mais bien sûr, on a essayé de démarcher un petit peu des entreprises et des gens qui nous ont aidés en fait, financièrement ou avec du matériel. Pour qu'on aille au bout de notre projet. Ça, c'est pas venu tout de suite. Beaucoup de choses se sont faites sur la route, donc on n'a pas hésité à partir par nos propres moyens. C'est quand les gens ont vu qu'on commençait vraiment à le faire qu'ils sont venus aussi un petit peu vers nous. Et il y a quelque chose qui a vraiment bien marché. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de remercier tous les gens qui ont fait un don sur le site internet. Il y a beaucoup de gens qui nous suivaient, qui n'ont pas hésité à participer de leur petite...
vous aviez fait du crowdfunding.
Alors, donc, le concept, disons, n'était pas lancé formellement.
Ça n'existait pas encore, mais c'était ça le principe.
Mais via notre site internet, les gens ont fait des dons et c'est franchement, on était beaucoup, enfin, très étonnés de la quantité de gens qui sont venus nous.
Donc, le mode d'emploi pour tous ceux qui écoutent, là, qui ont envie de le faire, donc bosser 2 ans, garder tous les sous, manger des pâtes et pas aller au cinéma pendant 2 ans et tout garder. En même temps, demander un peu de sous à droite à gauche, trouver quelques sponsors. Voilà, c'est ça le truc.
Oui, c'est ça, mais en fait, nous, on a vraiment constaté que c'était la qualité, en fait, de notre travail, l'engagement dans notre travail, c'est-à-dire dans notre travail, je veux dire, dans le partage qu'on avait décidé de faire à travers nos films, nos photos et nos textes, c'est ça en fait qui a payé. C'est parce que les gens, ils se sont dit, ah, ils le font réellement et apparemment, ils le font bien, ils le font avec passion, ils partagent vraiment avec leur trip, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire vivre leur aventure. Et c'est à partir de là, on a vraiment commencé à avoir du soutien. Et en fait, grâce à ce soutien, derrière, nous, on a investi dans des meilleurs appareils photo, dans des meilleures caméras. Et du coup, la qualité a augmenté et donc les dons ont augmenté. Ça a été vraiment le résultat d'un travail aussi de longue haleine. Et au départ, ça ne paye pas, mais ensuite, ça marche.
Et le projet Solidream, à la base, quand même, ça s'appelle comme ça parce que la volonté, c'est essayer de faire rêver un peu les gens. D'essayer de leur dire, c'est simple, il suffit de pas grand-chose pour aller au bout de ses rêves. Il suffit de se lancer.
C'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est pour raconter à tous ceux qui écoutent ou qui vous suivent par Internet que vous êtes des personnes tout à fait normales, vous êtes des gens normaux, mais qui avaient réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, on peut tous le faire.
Oui, c'est assez bien résumé là, merci.
Non mais c'est ça l'idée, et après c'est la ténacité si je comprends bien.
C'est une question de volonté, ouais, ça c'est certain.
Il faut mettre le projet dans la cible et pas lâcher. Quoi. Ça c'est long, 2 ans de préparation. Juste pour savoir, qu'est-ce que tu as fait comme boulot au Sénégal toi?
Alors moi j'étais conducteur de travaux sur un chantier pour la reconstruction du pont Fédère à Saint-Louis.
D'accord. Et bon.
Voilà. Donc moi j'étais passionné par mon travail autant que par le voyage.
Non, en plus quand vous bossez pour gagner du fric, vous avez une petite aventure aussi, c'est sympa. Et au Maroc, qu'est-ce que tu as fait?
Alors moi j'ai une formation d'ingénieur en système d'information et je bossais pour un grand groupe bancaire français où il y a Paris dans le nom. Mais je garde pas.
Ah oui, d'accord. Ouais. OK. Et donc tu étais là-bas pendant 2 ans et tu as gardé tous les sous de côté.
Voilà, j'ai travaillé là-bas pendant un moment et j'ai économisé. Ouais.
20 000 euros, c'est pas cher finalement pour se balader pendant 3 ans dans le monde, mais ça veut dire que, j'avais oublié ça, vous n'avez jamais dormi à l'hôtel pendant toutes ces années, pendant 3 ans.
Ouais, c'est en fait, bon, pour être précis, on s'est retrouvé à payer pour un logement 10 fois en 3 ans. Mais c'est parce que Étienne s'était cassé la clavicule ou c'est parce que...
Ah, quand même. Quand on se casse la clavicule, on a droit à un petit lit quand même.
Une fois, c'est arrivé parce qu'on avait un rendez-vous avec une télévision et qu'il fallait absolument qu'on ait Skype. Et donc, c'était au Vietnam. Et le seul moyen, c'était d'aller dans un hôtel avec le Wi-Fi parce que c'était en plein pendant la nuit. Voilà, c'était exceptionnel. Sinon, nous, l'idée, c'était on ne va pas à l'hôtel, on ne va pas en auberge, on ne payait pas de camping.
Donc, ça veut dire que vous dormiez à l'arrache avec votre tente n'importe où ou alors vous étiez hébergé chez des gens
Ouais, c'est ça.
On toque à la porte.
En fait, on était autonome, on avait tout pour se débrouiller nous-mêmes. Et souvent, en fait, on traînait un peu le soir. Et c'est vrai que là aussi, le fait d'être en équipe, c'est rassurant. Ça nous embête pas de traîner la nuit. Et en fait, on faisait beaucoup de rencontres grâce à ça. On parlait avec les gens et souvent, ils nous invitaient chez eux. On aime bien préciser aussi que dans notre voyage, on est jamais allé toquer à la porte des gens pour D'accord. leur dire bonjour, est-ce qu'on peut dormir chez vous ? Éventuellement, de temps en temps, on a demandé un emplacement de tente.
Mais ah, c'est un nouveau truc, ça.
Mais on n'a jamais demandé est-ce qu'on peut aller dormir chez vous ?
D'accord.
Voilà.
Même aux États-Unis, on en reparle tout à l'heure des États-Unis, mais même aux États-Unis ou dans des parties occidentales du monde, si je puis dire.
Tout à fait, ouais, ça fonctionne aussi.
Ça marche
bien.
Aussi. Ça oui. marche aussi. Et les 8 euros par jour.
Alors ça, c'est notre budget de fonctionnement quotidien.
Attends, 8 par personne ?
Par personne.
Oui.
Je te vois souffler. En fait, c'est sûr qu'il y a des endroits où c'est pas évident.
Non, mais ça marche en Thaïlande ou au ouais. Vietnam, mais aux États-Unis, pour revenir sur l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, tu manges des pâtes là. Hein.
C'est pas évident, effectivement, on mange des pâtes, mais nous, c'était pas un problème. Et surtout, après une grande journée de vélo, les pâtes, c'est très très bon.
Non, mais c'est pas un problème pendant 2 semaines, mais 3 ans. 3 ans de pâtes. Non, ça va.
Non, et c'est pas si peu que ça, en fait.
Non, ça va.
Franchement, c'est pas été facile en Australie, aux États-Unis, par exemple, au Canada. Mais après, comme je disais, on paye pas d'hébergement. Donc, forcément, tout le budget quasiment passe dans la nourriture. Et donc. C'est parfois été dur, mais la plupart du temps, ça allait, quoi. C'est un budget de fonctionnement qui est correct.
Ouais. On poursuit avec vous. On va raconter tout ce voyage un peu plus dans le détail pendant 60 minutes. On aura aussi des amis à vous au téléphone qui sont éparpillés dans le monde, notamment Kylian. C'est le cousin de qui, Kylian ?
Alors c'est le binôme, c'est le compagnon de voyage, en fait, de mon cousin de Morgane.
Kylian, t'es là ? T'as 2 secondes pour dire bonjour ?
Allô ?
Allô, ouais.
Salut,
on
Kylian.
Là, on est là tous les deux, là, derrière le micro.
T'es où, Kylian ? Dans quel pays ?
Malaisie, à Penang, une petite île qui est la Côte d'Azur de la Malaisie.
Allô la planète.
Allô.
Sur le move.
Et donc Brian et Morgane de l'équipe Solid Dream qui ont fait une grande balade autour du monde pendant 3 ans à vélo. On les a suivis plusieurs fois dans l'émission. Il y a donc un lien de famille avec Kylian. Enfin,
Thierry.
Thierry, le binôme de Kylian et ton cousin.
C'est ça. Ben,
Morgan, d'accord. Kylian ?
Allô, allô ?
Oui.
Ouais, salut Kylian. T'es où là ? T'es dans un web café, dans un hôtel ? C'est comment autour de toi ?
Couchsurfing, c'est un grand appartement dans une des barres d'immeubles. On est dans un petit appartement de barres d'immeubles.
Penang, attends, c'est laquelle ? Penang, c'est celle qui est au nord là ? C'est l'île qui est complètement au nord, à côté de la Thaïlande ?
Celle qui est tout au nord, c'est Langkawi, et en dessous, il y en a une autre qui s'appelle Penang.
Et Penang, c'est là que vont tous les routards pour refaire leur visa, si je me souviens bien.
Voilà, c'est là où il y a le consulat Thaï, donc on peut avoir 2 mois de visa pour la Thaïlande à partir de ce consulat, donc c'est pour ça qu'on est venu là en fait.
Bah oui, comme tout le monde, j'explique le truc aux voyageurs qui seraient coincés en Thaïlande sans visa, c'est très simple, vous descendez au sud de la Thaïlande, vous traversez la frontière, vous allez à Penang, vous refaites un visa et vous remontez.
Bah si vous êtes plus riche, vous pouvez aller au Cambodge ou au Laos, mais il faut payer un visa pour obtenir le visa Thaï. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de visa.
Et alors, on va rappeler en 2 mots, Kylian, ton histoire. On s'est parlé aussi plusieurs fois dans l'émission. Toi, tu fais le tour du monde à pied. Enfin, le tour du monde. Tu te balades dans le monde à pied, toi, pour le coup. Hein.
Voilà, c'est ça. Bah, l'idée, c'est de faire le tour du monde aussi. On va prendre des bateaux, forcément, à certains moments. Mais on était parti de France en 2008 avec l'idée de faire le tour du monde en marchant. Et donc, en restant loin des routes.
Voilà. Et vous connaissez avec Morgan et Brian, alors ? Plus ou moins ?
Bah, Thierry, son cousin. Donc, moi, je les ai jamais vus en vrai, mais du moment, j'ai suivi leur aventure depuis un petit moment là. Donc, on commence à les connaître à travers leurs écrits et leurs photos. Et ça va être plutôt sympa. Une fois qu'on rentrera en France, on va bien se faire une petite bouffe.
D'ici 15 ans, on pourra faire ça.
Voilà.
Vous pouvez vous dire bonjour. Hein,
Salut les gars. Avec plaisir, les gars. On vous réservera un bon comité d'accueil. Ne vous inquiétez pas.
Ouais. Ça sera dans 2 ou 3 ans, donc faudra avoir le temps de préparer la bonne bouffe.
C'est marrant, vous n'êtes pas croisés, pourtant.
On a failli.
Morgan, vous n'êtes pas. Vous êtes passé en Asie du Sud-Est à la fin.
En fait, on était coincés chacun de notre côté de la frontière.
Non.
Eux, ils étaient au Vietnam et nous, on était au Laos. Et donc, pour rentrer au Vietnam, nous, on ne pouvait plus rentrer au Vietnam parce que on avait eu un visa, mais avec une entrée et une sortie, on était déjà sortis. Et pareil, donc eux, pareil, c'était le même problème. Ils ne pouvaient pas sortir en fait, du Vietnam, si je me souviens bien, parce qu'après, ils ne pouvaient plus rentrer. Donc, voilà. On était chacun d'un côté de la frontière, on ne s'est pas vus.
Ah, c'est dommage. Kylian, ta démarche, toi, c'est quoi ? Pourquoi tu t'en vas comme ça ? C'est quoi ? C'est une fuite ? Une envie de voir le monde ? C'est un plaisir égoïste ? C'est quoi ?
Une fuite, non, pas forcément, mais c'était bien chiant la vie que j'avais à Paris. Là, ça faisait 2 ans que je faisais du métro tous les jours et que j'avais vraiment envie de faire autre chose. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de partir. Faut pas avoir trop peur de quitter la vie stable qu'on avait. Donc, je me suis lancé et puis je me suis dit, je verrai si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et tuir en aiguille, ça m'a bien plu. Donc, ça fait maintenant 5 ans, voire 5 ans et demi que ça dure. Et j'ai pas envie de retourner à la maison.
Bon, c'est foutu, c'est pas avec toi qu'on va payer nos retraites, hein. C'est mort là. On parlait avec les deux camarades, eux ils avaient un budget de 8 euros par jour, ce qui est déjà pas grand chose. Toi et Thierry, vous êtes à 2 euros par jour, c'est ça hein vous...
Voilà, c'est ça. Ouais.
Comment faire pour éviter de tomber dans la clochardisation?
Mais faut l'accepter, la clochardisation. Il faut accepter.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, pour pas tomber dans le côté un peu glauque, je suis l'occidental qui joue les pauvres à l'autre bout du monde et du coup je me retrouve à demander 100 balles dans un pays où on vit avec rien.
Ouais, non, mais c'est pas ce qu'on fait, nous. C'est, en fait, quand on a déjà avec 2 euros par jour, suivant les pays où on est, on a quand même un pouvoir d'achat qui est largement suffisant pour subvenir nos besoins au niveau quotidien, vu qu'on comme les Solid Dream, on n'a pas de. Le frais au niveau hôtel et enfin tout ce qui est à côté, on a vraiment que la nourriture à acheter. Donc on achète local et puis globalement, ça suffit largement. Avec 2 euros par jour, on a largement de quoi se nourrir. Quoi. Ouais, par exemple, là, le pain de mie, c'est 30 centimes, ça nous fait un repas. Après, on se prend des pâtes, on en met à 50 centimes pour deux. Et on peut même se faire plaisir en se prenant des bouteilles de Coca-Cola de temps en temps, etc. Après, en Europe, Ouais, c'est ça. En Europe, je dis pas, c'était chaud en Europe. Mais en Europe, il y a tellement de gâchis de bouffe dans les supermarchés, dans les boulangeries, qu'on expliquait notre projet. On disait qu'on cherchait du pain rassis ou de la bouffe expirée. Et on avait de la bouffe à foison que les gens nous donnaient. Quoi.
Ouais.
D'ailleurs, on dépensait même pas nos 2 euros. On avait tellement de restes et de trucs expirés qu'on ne dépensait pas nos trucs. On achetait du vin ou de la bière pour faire une fin de soirée, quoi, un petit apéro.
Bon, et alors là, vous arrivez d'où tous les deux ? Vous êtes donc en Malaisie, vous arrivez du Nord, non ? Vous arrivez de la Thaïlande ?
Voilà, en fait, on a interrompu notre marche en Thaïlande parce que, à cause du visa qui se terminait. Donc, on est descendu jusqu'en Malaisie pour faire un nouveau visa, pour retourner en Thaïlande et continuer la marche. Notre idée, c'est de faire vraiment tout à pied, tracer une ligne à pied, en fait,
ouais,
sur la carte.
Voilà. Et là, vous descendez vers la... Vous allez où ?
Bah là, on descend. Donc, on s'est arrêté au nord de Bangkok. On en a encore à peu près pour 3 mois pour finir la Thaïlande. Après, on descend jusqu'à Singapour, l'Indonésie. Bon, il faudra prendre des bateaux pour aller en ligne, mais bon, globalement, ouais, on va faire l'Indonésie, l'Australie, après l'Amérique du Sud, et etc. Jusqu'à,
voilà, quoi.
Jusqu'à l'Europe.
Oui, oui, bah oui, je suis idiot. Morgan, Brian, vous en avez rencontré beaucoup, des comme eux ?
Non, enfin, honnêtement, moi, je tiens à le dire aussi à l'antenne, je suis quand même impressionné par ce qu'ils font. Ils ont, enfin, la détermination qu'ils ont à suivre en fait l'idée originale de leur projet, c'est impressionnant. Quand on a vu là plusieurs fois, ils avancent, ils vont prolonger leur visa, ils reviennent du point de départ et ils continuent leur marche. Ouais. Je veux dire, nous on avait là-dessus, on n'a pas fait comme ça. Des fois, on a eu des problèmes, on est monté dans un camion, on a gagné 200 km, on allait faire réparer le matériel, puis on a continué, on n'a pas fait marche arrière.
Ouais, ouais, ouais.
Donc là, franchement, c'est impressionnant. Et le petit budget aussi qu'ils respectent, je sais aussi qu'ils font pas de. Qui m'en dit pas. J'ai bien vu que de la manière dont ils voyagent, ils sont pas du tout dans la clochardisation. Et moi, franchement, je leur tire mon chapeau pour l'endurance et la détermination de leur binôme. Là.
Kylian, Thierry, est-ce que chez vous aussi, comme chez les gars de Solidream, il y a cette volonté de dire à tous les autres, c'est possible, si vous avez envie, vous pouvez partir, le monde est ouvert ?
Bah oui, c'est ce qu'on a déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Enfin, il y a pas mal de gens qui nous contactent via Internet. Donc ils nous demandent s'ils peuvent marcher avec nous, donc c'est un bon moyen pour nous de leur montrer que c'est vraiment accessible à tous. Donc voilà, on leur à partir du moment où ils peuvent juste payer les frais de transport pour venir nous rejoindre, après ils peuvent marcher pendant, ça dépend des gens, mais ça peut durer jusqu'à 3 mois, il y a certains.
Ouais, depuis le début, il y a peut-être une quinzaine de personnes au total, je pense, qui ont marché avec nous, d'une durée d'une semaine à 3 mois pour le plus long, quoi. Donc vraiment, tout le monde peut le faire, c'est pas un problème. Après, c'est arriver à se libérer de ces attaches qu'on a en France, c'est-à-dire vendre l'appart, les crédits, etc.
Oui, là, vous n'avez plus rien, là. Vous ne possédez rien.
Bah, on n'a même plus de sécurité sociale.
Si, on possède ce qu'on a dans notre sac à dos, quoi. Donc,
oui, donc rien. Enfin, deux t-shirts, voilà. Quoi.
Si, léger. On a quand même beaucoup plus que la moitié, que la plupart des gens qu'on croit sur notre chemin en Thaïlande, dans les campagnes thaïlandaises.
Ouais.
Dans notre sac à dos, il y a le prix, parce qu'on a des ordis, on a une caméra, donc il y a le prix de beaucoup plus cher que leur baraque à eux, quoi.
C'est bien ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai. Vous avez, en n'ayant rien, vous avez plus que certaines personnes que vous croisez. Ouais, ouais.
C'est qu'on n'a pas rien, on a peu, mais c'est toute une question de proportion après.
Et surtout les gars, ce que vous avez, ce que nous on avait, et qui vaut tout l'or du monde, c'est qu'on a le passeport européen, quoi.
Ouais, ouais.
Exactement, ça c'est la chance qu'on a, et les gens ne sont pas forcément très conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir voyager partout. Et on voit plein de gens, on rencontre des jeunes, disent « Ah, j'aimerais bien aller en Europe, mais c'est dur pour les visas, je ne peux pas trop voyager, etc. » Donc c'est vrai qu'on a une chance et on en profite, on en est bien conscient. T'as bien raison.
Et là, c'est merci Saint-Fion d'être né ici à ce moment-là, quoi. Voilà.
Ah, ouais, exactement.
Merci beaucoup d'être passé. Bonne route, Thierry et Kylian. Amusez-vous bien, poursuivez bien.
Pas de quoi, il n'y a pas de souci.
On se recontacte, je ne sais pas, quand vous serez un peu plus, je ne sais même plus, dans 15 jours, 3 semaines, quand vous voulez, quoi, quand vous avez le temps.
De l'action. Ça marche.
Ça roule. Merci. Ouais. Je vous embrasse.
Ciao les gars.
On vous suit et encore bravo aussi pour vos photos là. On se régale.
Ouais, bon courage.
Bravo
courage.
Pour tout ce que vous avez fait et puis continuez bien. Je sais pas quel projet que vous avez prévu sur la suite là, mais.
Vous verrez. On vous réserve la surprise.
On met un lien avec votre site bien sûr, Kylian et Thierry. Vous inquiétez pas sur la page Facebook de l'émission et sur le move.fr. À très bientôt. Merci d'être passé. Salut. Bonne route.
Salut.
Allô la planète sur le move.
Si necesita ayuda, llame a su servicio de atención al cliente.
Avec Eric Lange.
Vous êtes maintenant à la messagerie Iridium.
Petite question de Xavier sur Facebook pour Morgan et Brian de Solidream. 54 000 km à vélo, ça semble complètement surhumain. Faut être sacrément motivé pour en arriver. Comment est-ce que vous avez géré les pépins de santé, genre douleur aux genoux, tendinite, etc. Vous avez vu ça ? Oui, forcément.
Ouais, on a eu quelques soucis. On a eu jamais eu de soucis très très graves. Donc après là-dessus, c'est des choses qui se prévoient pas. Une tendinite, c'est une hauteur de selle qui est mal réglée. Voilà, on a mal pendant 2-3 jours. Sur une échelle de 3 ans, c'est pas grand-chose.
Les warriors. Ouais, non, la tendinite, mon colonel, c'est rien. Tu remontes la selle et t'avances.
Non, mais par exemple, j'étais très mal en point. C'est moi qui ai l'estomac le plus fragile dans l'équipe. J'ai été très mal en point à certains moments du voyage. Bon, bah, petit séjour à l'hôpital, réhydratation. Et puis c'est reparti. C'est sûr que c'est carrément pas agréable quand on est sur le coup, mais on apprend à surmonter.
Vous n'êtes pas non plus des super-héros. Vous êtes sportif, à la base, quand même. Ouais, on peut dire ça. Vous pratiquez du sport régulièrement.
On est amis autour du sport en fait. On a toujours pratiqué le sport ensemble en fait.
Donc ça aide, mais vous n'êtes pas non plus des super-héros. Ce que je voulais dire, c'est vrai quand on est en voyage, parfois on a des maladies ou des trucs, mais ça semble moins grave que quand on est sédentaire. Je sais pas si ça vous a fait ça. T'es malade, tu te casses un truc, bon bah c'est pas si grave. Tu vois, t'as une espèce de morale quand même qui te maintient quand t'es sur la route, non?
Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on est un peu plus dans un état d'esprit où ça devient moins important. Peut-être avec l'abnégation de vouloir aller au bout, peut-être ça devient des détails. Après, des fois, il y a la terre qui nous rattrape. Par exemple, Étienne de notre équipe qui vient nous rejoindre pour un an s'est cassé la clavicule au Canada. Nous demandait entre 4 et 10 000 dollars pour se faire opérer. Il avait la chance d'avoir l'assurance de son ancien travail qui était encore active. Ouais. Donc il a été rapatrié en France. Voilà, ça met quand même des coups qui nous disent bon, il faut faire attention quoi. Il faut faire attention.
Et aussi, juste pour rajouter juste sur cet événement-là, quand il s'est cassé la clavicule, la prochaine ville, elle était à 750 km.
Et alors, comment vous avez fait ?
C'est là où c'est intéressant, c'est que quand on est là en France, dans notre quotidien, ça nous paraît complètement hallucinant de se dire que le gars, il s'est cassé la clavicule, la première nuit, il l'a passé dans la tente, le lendemain, on a fait du stop pendant 750 km pour qu'il rejoigne la ville, il a attendu 4 jours avant de prendre l'avion et de se faire opérer en France. Ça paraît fou, mais en fait, quand on est dans le voyage et quand on est dans ces conditions-là, c'est comme ça, point.
Oui, c'est vrai que t'as pas le choix de façon.
Voilà, on se pose pas la question, c'est comme ça. Donc, en fait, n'importe qui aurait fait la même chose. Et ça rajoute donc justement, ça précise qu'on n'est pas du tout des warriors, on est des gens comme tout le monde. Et en fait, c'est juste que quand vous êtes dans la situation, vous le faites.
Ouais. Guillaume Ledrôle nous dit, je suis curieux de savoir, que je salue, salut mon cher Guillaume, je suis curieux de savoir comment ils ont géré le côté logistique. Parce qu'il faut tout, il y a beaucoup de matos entre l'Arctique, le Guatemala, la Nouvelle-Zélande, enfin tout ça. Ils n'ont pas trimballé tout le matériel sur le vélo.
Ouais, tout à fait. En fait, on a été, je pense qu'on a été quand même très bien organisé. On avait quand même bien pensé notre projet. Et donc, on s'est toujours débrouillé. On a anticipé beaucoup en se disant, bon, bah, on connaît quelqu'un qui va venir peut-être voilà, dans cette région du monde à telle période de l'année. Donc, on avait préparé des sacs en France et on lui demandait s'il pouvait venir avec. Et ensuite, par exemple, quand on avait terminé avec les régions froides de Bolivie et qu'on s'aventurait dans la région amazonienne, et ben pareil, on avait une amie qui est venue nous voir en Bolivie. Et ben on lui avait dit, bon, ben est-ce qu'on pourra te laisser quelques affaires ? Elle est repartie en France. On avait mis des sacs avec marqué dessus « Affaires divers Morgan, affaires divers Brian ». Ça retournait chez nous. Et puis les parents, un an après, quand on se retrouvait encore, on leur disait, ben, il y a telle personne qui vient dans telle région du monde. Est-ce que vous pouvez lui poster ? D'accord, etc. Ouais.
Juste deux, trois petites histoires. Je reprends le parcours. Donc, vous démarrez il y a 3 ans avec l'Afrique de l'Ouest et le Sahara. Ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui, c'est un endroit où vous ne pourriez plus passer, par exemple. Avec le Mali, avec ce qui se passe en ce moment dans la région. À l'époque, c'était déjà chaud ou...
À l'époque, on nous a mis en garde déjà, parce que bah, quelques mois avant qu'on parte, il y avait eu des prises d'otages et puis il y avait eu même des touristes français qui avaient disparu. On nous avait dit de ne pas y aller, de ne pas passer dans cette région. Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de ça qu'on a eu des problèmes. On est resté bloqué 5 jours au niveau du No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie. Donc là, on a eu des problèmes. C'était lié en fait à ces problèmes d'insécurité. Donc en effet, on en parlait tout à l'heure, mais dans le monde, le voyage, on peut le faire une année, puis l'année d'après, il y a des problèmes géopolitiques, problèmes. Donc quand on est passé, c'était tendu, mais ça passe.
Quand je vois, vous avez quand même de la chance parce que vous êtes passé pratiquement partout. Quoi. Aujourd'hui, non, mais ça me fait penser qu'aujourd'hui, on peut aller à peu près partout. Voilà, par quelques zones de conflit, sinon.
Ça rappelle la chance qu'on a d'avoir un passeport européen.
Avec un passeport européen, toujours. Après l'Afrique, il y a eu. Donc vous traversez l'Atlantique, là, vous avez pris l'avion. Vous arrivez en Amérique latine, alors bon, on peut pas tout résumer, tout raconter, juste quand même à vélo à travers l'Amazonie. Comment ? Pourquoi ? Comment tu fais ? T'as la machette devant ?
C'est une étape qu'on a abordée, en tout cas pour ma part, mais je crois que c'est le cas pour l'équipe, avec énormément d'appréhension. J'avais un peu peur, moi, d'aller traverser l'Amazonie. On avait très peu d'informations sur la route qu'on a, On a emprunté, on a allé regarder des vues aériennes satellites sur Internet pour essayer de noter les cours d'eau où on pourrait se ravitailler en eau. Donc là, franchement, c'était l'aventure, la traversée de l'Amazonie.
C'était le vrai baroud, là. Ouais.
Mais pourquoi on faisait ça? Parce que c'est un peu l'esprit de l'équipe aussi, de se lancer des défis, pas faire que du vélo pour du vélo. C'est un endroit qui est assez peu connu. Et voilà, essayer d'aller voir dans des endroits comme ça, un peu sauvages de la Terre, c'était vraiment un projet au départ que l'équipe portait. Ouais.
Quand on dit l'Amazonie, oui, c'était surtout au Brésil, en fait, cette traversée de la forêt. Là.
Ça s'est fait au nord de la Bolivie et ensuite au Brésil. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas tout à fait plat, les routes en Amazonie. En Bolivie, c'était un peu plat, mais au Brésil, on a énormément souffert. C'est l'étape la plus difficile physiquement pour nous, l'Amazonie, parce que c'était des routes en montagne russe, très très pentues, poussiéreux, quasiment 100% d'humidité, la journée, la nuit, très chaud, 40 degrés. Donc je vous laisse imaginer avec un vélo chargé, c'est pas évident.
Ensuite, donc vous remontez l'Amérique centrale, le Mexique, vous arrivez aux États-Unis. Là, on est de nouveau dans le monde occidental riche. Comment on fait avec 8 euros par jour aux États-Unis? McDo?
Non,
McDo, c'est le restaurant pour les pauvres en Amérique. Hein.
Oui, mais peut-être, mais nous, on risquait pas d'aller au McDo à part pour profiter de leur Wi-Fi et éventuellement d'aller récupérer de l'eau aux toilettes. Mmh. Mais ça se limitait à ça. Non, en fait, avec 8 euros par jour, il faut rassurer tout le monde, quand on paye pas d'hébergement, quand c'est uniquement pour se nourrir, mais aux États-Unis et même en Australie où c'était le plus cher, c'est faisable. Il faut juste cuisiner soi-même et acheter donc de la nourriture relativement basique. Mais nous, c'était donc pâtes, œufs, boîte de thon. Et quand même, on essayait d'acheter un maximum de fruits et légumes. Et ouais. On s'en sortait bien. Quand même, 8 euros juste pour se nourrir, ça suffit.
Et là où ça devient légèrement difficile, en fait, c'est comme je disais au début, beaucoup de gens qui nous invitaient chez eux. Et en fait, quand les gens ils veulent nous emmener quelque part, allez, les gars, je vous emmène au resto. Par exemple, pour l'anecdote, on a été invité au resto aux États-Unis. On dit, bon, ok, on prend au moins les pourboires, quoi. Sauf qu'aux États-Unis, les pourboires, c'est quand même beaucoup. Ouais, on était 10, ça nous a coûté 40 dollars de pourboires. Et en fait, bon, cet objectif de 8 euros, c'était surtout quand on était sur la route, on n'avait pas envie, en fait, d'emmerder les gens quand on était chez eux avec notre budget. On a appris en fait à laisser aller un petit peu quand on était en ville pour se rattraper par la suite. Parce que bien sûr, le voyage, c'est beaucoup la rencontre. Et si le budget limite la rencontre, ça devient plus intéressant. Quoi.
Ouais. Donc vous n'étiez pas complètement intégriste non plus sur l'histoire.
Donc il faut se laisser un minimum de flexibilité. Par contre, on a respecté notre budget globalement, ça faut le dire aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après, on se retrouvait à dépenser 4 euros par jour parce que justement, à San Francisco, on avait claqué 20 euros par jour. Quoi.
Juste un mot avant de retrouver un copain à vous quelque part dans le monde, justement, ce côté défi, challenge, où je m'impose 8 euros par jour, je m'impose de pas aller à l'hôtel, je m'impose ceci, je m'impose cela, pourquoi? C'est important pour vous? Parce qu'on peut faire exactement le même genre de voyage sans se fixer toutes ces barrières. On peut dire, bon, bah, je vais là, finalement je vais à l'hôtel. Pourquoi? C'était important dans votre démarche, dans la motivation dans l'ensemble du projet?
C'est important de noter qu'on a, il y a aucune des règles qu'on s'est posé dans un état d'esprit, on ne va jamais l'enfreindre. Mmh. D'ailleurs, d'accord. On a tout enfreint. Comme je disais tout à l'heure, ça nous est arrivé de payer parce qu'il avait la clavicule cassée, donc on a payé un hébergement. On n'est pas resté borné sur nos positions, campé sur nos positions. Il y a plein de choses comme ça. On n'a pas fait que du vélo. Des fois, on a fait du stop, on est monté dans des camions. Donc, on n'était pas borné. La seule règle, il y avait une seule règle qui était genre la règle qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, c'était... Dans notre équipe, dès qu'il y en a un qui a décidé de faire une image, donc faire photo, faire du film, donc il a pris l'initiative de dire « Les gars, on s'arrête, on fait une image », c'est lui qui devenait le patron. D'accord. Ça veut dire que les autres, ils n'avaient pas le droit de râler « On est fatigué, on a faim, il fait froid, c'est la misère, je ne veux pas faire ton image, je ne veux pas reculer 300 mètres pour recommencer ». Et ça, c'est la seule règle qui n'a jamais été enfreinte.
Là, on parle de règles, mais par exemple, la règle de jamais payer d'hôtel, c'est pas une contrainte en fait. C'est un état d'esprit de se dire, on va volontairement s'ouvrir au monde, on va traîner le soir dans la rue pour rencontrer des gens. Et vraiment, on l'a pas vécu comme une contrainte. Quand on est en équipe, c'est pas un problème de traîner en ville le soir. C'est un moyen pour nous de multiplier les rencontres. Vraiment, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Pas du tout comme une contrainte embêtante. Quoi.
C'est pas le côté Koh-Lanta, pas du tout. Non, c'était pas ça.
Tout à fait.
Vous vous souvenez d'un garçon qui s'appelle Étienne?
Oui.
Ouais.
Allô, Étienne? Est-ce que t'es là, Étienne? Tu nous entends, Étienne?
Oui, je vous entends.
T'es où, Étienne?
Je suis encore en bus.
En Bogota. À Bogota. Bouge pas, Étienne, on va mettre un disque, on va arranger un peu le son, on se retrouve juste derrière. Vous l'avez rencontré, il n'était pas à Bogota, il était au Canada.
Au Canada, au Canada, tout à fait.
Donc il est arrivé à Bogota, lui, il va dans l'autre sens. Ok, on met Alt G, on arrive. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and save my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe.
Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely.
Allô, la planète.
Allô.
Sur le move.
Et je salue rapidement Clémentine qui me dit je suis toujours dans la jungle. Bon, bah, Clémentine, je sais pas quelle jungle ni où, mais on t'embrasse. Michel à Montréal, moins 23 degrés, waouh. Richard avec ta Kodari, Laetitia vous salue, magnifique expérience Solid Dream, vous devez en avoir plein les yeux, merci de partager, ça nous donne envie de voyager. C'est bien de donner envie comme ça, hein. ça fait plaisir quand... ouais.
C'est très motivant.
Étienne, donc Étienne, est-ce qu'on peut, est-ce que la communication est bonne? Étienne à Bogota. Ouais, Étienne, tu les as rencontrés où? Au Canada alors, les camarades de Solid Dream?
J'ai rencontré l'équipe de Solid Dream pour la première fois à Whitehorse, dans le nord du Canada. En fait, moi, j'étais en transit entre un autobus et un avion avec mon vélo dans une caisse pour m'amener jusqu'à Inuvik, dans Granat canadien. Et moi, je commençais mon aventure à vélo, en fait, à travers le continent américain. Je me suis contenté d'un continent, pas d'un tour du monde. Puis, eux, ils se préparaient à construire un radeau géant pour descendre une rivière jusqu'à Dawson, je trouvais un peu fou, ça. Mmh. Puis, une dizaine de jours plus tard, moi, je les ai retrouvés, en fait, à Dawson. Moi, j'avais un cousin qui habitait là-bas, puis eux arrivaient de leur aventure sur la Philippe.
Et là, toi, t'es arrivé. Attends, je reviens à toi. Ce le son est pas très bon. On va résumer la conversation. Ils vont raconter l'histoire du radeau après. Toi, là, t'es à Bogota, en Colombie, et le but du jeu, c'est de descendre jusque tout en bas, jusqu'au sud de l'Amérique du Sud.
Du côté de l'Amérique du Sud jusqu'à Ushuaïa, où eux, en fait, ont commencé leur aventure sur le continent américain.
D'accord. Et t'es parti de chez toi. C'est où chez toi? C'est Montréal? T'habites où?
Moi, je suis de Montréal. Je suis pas parti de chez moi. Je suis parti du Grand Nord canadien, en fait. Je suis parti près de l'océan Arctique. Mais oui, je suis québécois.
Et ça va? Tu te portes bien? La vie est belle?
La vie est extrêmement belle. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. C'est chaque jour, j'ai... Chaque jour est une aventure, on ne sait jamais comment la journée va se terminer. C'est un peu ce qu'ils vivent, eux, qui ont vécu aussi dans leur expérience. J'espère que le retour n'est pas trop difficile pour eux. Mais on a l'air d'être bien occupés avec les entrevues, leur production de livres, leur production de films. Donc je suis content pour eux. Ça.
Étienne, on va arrêter là parce que le son n'est pas bon, c'est dommage. On essaiera de te joindre à une autre étape quand il y aura un téléphone un peu qui fonctionnera mieux. Comme ça, tu pourras tout nous raconter aussi.
Avec plaisir, oui.
Ah, on t'embrasse, Étienne. Bah, vous pouvez le saluer quand
même. Ouais, salut, Étienne. Ouais,
vous l'avez pas revu depuis je sais pas quand.
Non, on continue de te suivre.
Étienne, ouais. Il a un projet, je sais pas si tout le monde a compris, qui est vachement balèze. C'est que en fait, il descend l'Amérique en suivant les montagnes. Et donc, à vélo, ça fait une grosse, grosse différence.
Non, mais Étienne, t'es pas obligé, tu sais. Tu peux aller dans les plaines.
Ouais, pourquoi ça fait, c'est un peu ça compliqué.
Oui, c'est vrai. Merci Étienne, merci d'être passé, à la prochaine. Salut.
Au revoir.
Tiens, salut. C'était quoi l'histoire du radeau? Alors, je me souviens, je vous avais parlé à ce moment-là. Vous étiez dans le Grand Nord canadien et vous aviez voulu faire un radeau pour aller où? Enfin bon, raconte-moi l'histoire.
Oui, on est dans le Yukon, donc il y a une ville qui s'appelle Whitehorse.
Ouais.
Et en fait, quand on lisait, nous, gamins, les livres de Jack London et La ruée vers l'or, et qu'on lisait tous ces mecs qui partaient dans le Grand Nord canadien pour aller chercher de l'or, et ben il y en a quelques-uns qui s'aventuraient à descendre le Yukon en radeau, parce que c'était le seul moyen d'aller dans le Grand Nord. Et donc, l'idée pour nous, c'était de revivre un peu cette épopée. Et donc, dans la ville de Whitehorse, on a décidé de construire un radeau qui serait capable de nous embarquer tous les quatre, parce qu'à ce moment-là, on était quatre, et nos quatre vélos, avec les vivres et tout le nécessaire pour pouvoir faire donc les 750 km jusqu'à la ville de Dawson.
Ouais, ouais.
Et sur 750 km, quand même, pour la petite histoire, il y a un seul et unique village à mi-chemin. Donc c'est vraiment le wild, quoi, comme on l'imagine. C'était vraiment une étape dans la nature profonde.
Vous étiez en autosuffisance, vous avez acheté à manger ou c'était chasse, pêche et cueillette? Non, quand même pas.
Non, on avait prévu pas mal de vivres pour descendre la rivière. Donc on avait, je crois, une douzaine ou une quatorzaine de vivres.
Deux jours,
en vivres. Et puis l'eau, c'est pas trop un problème puisqu'on est sur la rivière. Bon, faut quand même la filtrer. Parce qu'à un moment donné, elle arrive, qu'elle est sédimentaire, donc il faut la filtrer, quoi. Voilà.
Et le radeau, si je me souviens bien, il y a pas une belle histoire à la fin? Vous l'aviez pas donné à des gamins ou je sais plus quoi? Si, hein.
C'était pas mal. C'est presque ça. En fait, on est arrivé à Dawson et on cherchait un moyen. Donc,
qu'est-ce qu'on fait de ce radeau?
De le donner, enfin pas de forcément.
Parce
de
qu'il
donner,
est beau. Allez voir sur leur site tout ça, les images, les films. C'était pas mal, quoi.
Ah ouais, c'est un radeau, bien solide, bien construit. Et donc l'idée, c'était de qu'ils servent à quelque chose. Et donc quand on est arrivé à Dawson, on a rencontré une femme qui faisait du social et qui nous expliquait que le problème dans la ville de Dawson, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des jeunes pour venir travailler et faire la saison. Parce que tout simplement, ils gaspillent tout leur salaire dans leur logement. C'est tellement cher et ils n'ont pas le droit de camper, c'est interdit le camping. Donc il faut aller dans le camping payant et c'est trop cher. Donc l'idée, c'était dans les lois, c'est pas marqué que le camping sauvage sur la rivière est interdit.
C'est pas marqué. Ah d'accord, ça. Donc tu peux te mettre sur un radeau. Et
voilà, ouais. Donc du coup, en fait, cette femme, elle nous a dit, bon, moi je serais intéressé pour vous racheter votre radeau. Et pour pouvoir donc installer les jeunes pendant la saison sur votre radeau, où on peut faire dormir donc 6 personnes quand même. Et donc, on lui a dit, bon, écoute, nous, c'est simple, il nous a coûté tant, on le fait à moitié, comme ça, ben, nous, on aura investi la moitié et vous, vous investissez la moitié. Elle était ravie. Et aujourd'hui, on est toujours en contact avec cette femme et elle est heureuse donc, d'avoir ce radeau pour ses jeunes.
D'accord. Et Laura, y a toujours... là, on est en train de parler, il y a des jeunes qui dorment sur votre radeau. Là,
oui, pendant la saison estivale.
C'est bien, c'est bien. Après, j'ai peur qu'à la fin de l'émission, on n'ait pas le temps, donc il y a un truc dont je voudrais vous parler avant qu'on parte au Brésil retrouver Paulin. Qu'est-ce que... Vous êtes quoi maintenant, là ? Vous êtes rentré en France après 3 ans de balade dans le monde. Quand on revient en France, un pays très administratif où il faut, faut rentrer dans les cases hein, pour les papiers de la Sécu, tout ça, vous êtes quoi ? Vous êtes chômeur ? Vous êtes érémiste ? Vous êtes, qu'est-ce qui se passe quand on revient après avoir disparu de l'administration française pendant 3 ans ? Qu'est-ce qu'il faut aller où ?
Ben... Là, pour être honnête, on est un peu des extraterrestres par rapport au système français. Ça commence à se préciser. Je ne sais pas quelle va être la conclusion. Mais en gros, bon, ce qui est bon de souligner en France, c'est que toute personne résidant sur le sol français a le droit de bénéficier de ce qu'on appelle la CMU en termes d'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas parce qu'on ne voulait pas non plus nous profiter du système directement en rentrant. Mais en fait, on est en train de créer notre structure et essayer de capitaliser sur notre voyage. Donc, on est en train de sortir un livre et des choses comme ça. Mais c'est assez difficile de faire 3 salaires, parce qu'on est 3 à porter ce projet directement. Et en fait, quand on se lance comme ça dans une entreprise en France, un retour, compliqué. C'est pas évident. Et donc, on n'a pas les moyens de se verser de ces salaires en étant à temps plein sur notre projet pour le moment. Donc là, c'est en train de... Le statut qu'on a, c'est à peu près celui-ci. Et pour revenir sur le livre, donc c'est...
Il est là, je l'ai entre les mains. Il s'appelle Solid Dream. C'est chez Transboréal. Il faut acheter le livre. Voilà, hein, je le montre aux caméras, acheter le bouquin parce que après, ils en ont marre de manger des pâtes. Ils en peuvent plus.
Bah en fait, ce soir, la sortie du livre, hein, ce soir.
Ce soir, pour éditeur. Tous les auditeurs qui écouteront sur Internet dans le mois qui vient, ce soir, c'est le mardi 21 janvier 2014, la sortie officielle du livre Solid Dream chez Transboréal.
Exactement. Et pour la première semaine, le livre est donc, vous pouvez le commander sur notre site internet, soliddream.net. Et pour la première semaine, on offre les frais de port. Donc, il arrive pour 29 euros partout dans le monde. Il arrive dans votre boîte aux lettres.
Et le problème, c'est que vous êtes 3. Quand on vend un livre 29 euros, allez, les auteurs, ils ont quoi, 10% grosso modo.
Ouais.
Ça fait 3 euros et il vous reste 1 euro chacun par bouquin.
Alors,
quoi.
Dans un contrat d'auteur, oui. Nous sommes dans un contrat de coédition. C'est-à-dire que nous avons...
Vous avez payé pour les...
On a créé notre... Voilà, exactement. On a créé notre propre structure et on a prévendu le livre. Donc il y a 2000 personnes sur Internet dans le monde entier qui nous ont acheté le livre avant même qu'il sorte. Donc ils nous ont permis d'avoir un contrat avec Transboréal de coédition.
D'accord.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les mêmes contrats de chiffres que quand on est un auteur où on prend 0 risque. Mmh. Mais par contre, forcément, là, on n'a plus que 10%.
Plus grand-chose.
Nous avons participé au financement de la fabrication, donc de l'impression et de... Voilà.
On a pris le risque.
Donc, vous n'avez pas de statut, vous êtes seul, vous êtes à la CMU et en plus, vous êtes endetté. Alors.
C'est
exactement.
Bon retour chez nous. mais alors, c'est l'avantage de se balader, parce que les 2000 personnes, c'est les 2000 personnes que vous avez rencontrées dans le monde. Non, je déconne, mais pas loin.
C'est presque ça. Disons que c'est les personnes qu'on a fédérées autour du projet Solid Dream, qui ont aimé, qui croient aux valeurs que nous on veut partager sur Internet, à travers nos films et nos photos. Ils croient en nous, ils croient au projet et ils veulent nous aider. Et on les remercie parce que on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il faut le répéter que c'est grâce à ces gens-là en fait aussi que le projet Solid Dream il est ce qu'il est. Mmh. Et on les remercie tous de nous aider depuis 3 ans maintenant.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on est en train de faire un long métrage et on va donner de l'actu sur le site dans les mois à venir.
Vous allez faire un long métrage ? Vous avez trouvé un producteur, tout ça ?
Alors non, on est en autoproduction pour l'instant pour le film. Après, nous, on est quand même ouvert s'il y a des professionnels qui veulent voir nos images et qui s'intéressent de collaborer. Bon, on a fait beaucoup de petits montages quand on était sur la route sur Internet, ça a beaucoup plu. Donc on part là-dedans en autoproduction confiant. Ceci dit, on connaît la valeur ajoutée d'un regard professionnel et extérieur et bon, pourquoi pas.
Vous pouvez tout voir, bien sûr, on a mis des liens sur la page Facebook de l'émission Allô la planète et sur le move.fr. Est-ce que vous connaissez Michael Kiwanulka ?
Non, je ne crois pas.
C'est un monsieur qui chante et nous voici.
I still get low in a little while. I know sometimes I wonder. Sometimes I take too long. But I know where I'm headed. I know I belong. I didn't call, but I'll be long in a little while. You know, sometimes when I don't call, I still get low.
Allô la planète.
Thank you for calling Mélanie Fusion Bangkok. How may I help you?
Avec Eric Lange.
Allô.
Juste un mot avant de rejoindre Paulin au Brésil, sur ce dont on parlait là pendant le disque. Je vous demandais, mais votre vision du monde, elle a changé, tout ça. Et Brian, t'es en train de lire ou tu as lu Le Sanglot de l'homme blanc? C'est quand même bizarre le rapport qu'on a avec le monde quand on revient.
Oui, alors ce livre, il traite du thème de la culpabilité en fait, de l'homme blanc face au pays de ce qu'il appelle du tiers-monde. Et il dit en fait, grosso modo, qu'il y a deux discours. Il y a celui soit qui embrasse complètement le pays qu'il est en train de visiter en rejetant complètement sa société de base, donc occidentale, ou alors celui qui est au contraire le colonialiste qui vient essayer d'imposer sa loi. Et lui se place quelque part au milieu en disant « bon, il faut prendre ce qu'il y a de bon ». Et surtout, il faut parler à ces gens-là d'homme à homme et pas ne pas soit s'abaisser à leur niveau, parce que déjà, ça veut dire qu'on les prend comme inférieurs, ni les prendre de haut, mais les prendre tout simplement d'homme à homme. Et donc, c'est ça qu'il dit un petit peu dans ce livre et qui nous a fait vachement progresser. On l'a vu, ça, sur la route.
Parce que sur la route, effectivement, et quand on revient, c'est ce qu'on se disait aussi, on a toujours envie de dire « mais partez, faites comme nous », c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est ce qu'on dit à longueur d'émission, d'ailleurs. Mais comme tu me disais justement, Morgane, quand on dit ça, on s'adresse à 20% de la population mondiale. Le reste ne peut pas.
Franchement, on réalise ça après avoir fait la boucle. On se dit que, en fait, on se rend compte de la chance qu'on a, et aussi on se rend compte on n'est pas nombreux en fait à avoir cette chance sur Terre. Et quand on tient nos discours, des fois, qui sont un petit peu, on a des discours un petit peu tout fait, tout beau, tout rose. On le réalise que ces discours, en effet, ils sont un peu tout beau, tout rose, parce qu'ils s'adressent qu'à justement peut-être 15 ou 20% de la population. Et peut-être encore que là, j'en dis trop, c'est peut-être 10% de la population mondiale qui peuvent en effet dire « je veux le faire, j'y vais quoi. Je peux le faire, j'ai la liberté de le faire ». Il ne faut pas qu'on oublie que tout le reste de la population, eux, ils ont pas cette chance, ils n'ont pas cette liberté. Donc voilà, il faut le garder dans un coin de la tête et du coup, il faut se réveiller le matin avec le sourire en disant qu'on a de la chance.
Il ne faut pas le culpabiliser non plus.
Non, ce serait bien trop dommage.
On n'y peut rien, on a eu de la chance, on est né là.
Non, mais tout à fait. Il ne faut pas culpabiliser, il faut s'en rendre compte. Et des fois, peut-être aussi, ça peut aider pour arrêter de s'apitoyer sur son sort pour des petits détails du quotidien qui sont en fait futiles. Et on peut largement outrepasser ces problèmes pour se rendre compte qu'on a la liberté aujourd'hui de maîtriser notre destin et qu'il faut le faire.
Paulin est avec nous, je voulais vous présenter Paulin. Paulin, t'es là ?
Ouais, salut.
Salut Paulin, t'es où ?
Là, je suis dans une cousade à Salvador, sorte de base de jeunesse.
Salvador de Bahia, au Brésil. Rappelle-nous, alors je te présente Morgan et Brian de l'équipe Solid Dream. Je ne sais pas si tu les connaissais, tu les avais suivis avant sur Internet, avant de partir toi-même ou pas?
Ouais, bah, en fait, quand j'ai eu ce projet de vélo, là, j'ai directement trouvé leur blog et ça m'a vachement aidé. D'ailleurs, j'avais envoyé un email, Brian m'avait répondu.
Ok.
Et ouais, ils m'ont beaucoup aidé pour le matos et... pour tout ce qui est technique en fait, qu'est-ce qu'il faut acheter pour être sûr, le vélo et tout ça.
Et alors, on a été de bons conseils ou on s'est planté?
Pour l'instant, ça va.
Ok.
Parce que, je vous explique, Paulin, on le suit depuis son départ, il est parti de France, il a traversé Gibraltar, là, il est arrivé au Maroc, Sénégal, là, t'as fait du bateau stop, hein, après du Cap Vert, c'est ça, Paulin?
Ouais, Canaries, Cap Vert, jusqu'à Natal.
Voilà. Tout ça avec son vélo, comme vous.
Super.
Balèze. Ouais, on admire toujours les gens qui vont faire des milliers de kilomètres, parce que c'est sûr, on en a fait, mais à chaque fois que quelqu'un nous dit, ne serait-ce que je pars pour 2000 kilomètres, on est là. Ok, on sait ce que c'est. Bon courage. Et, ouais, félicitations.
Ça va, Paulin? T'en baffes pas trop? C'est pas trop dur?
Là, c'était un peu express, parce que je devais arriver ici avant le 24. Bon, au final, j'ai de l'avance.
Ouais.
Du coup, j'ai fait 1200 bornes en 10-11 jours. C'est intense, avec 45 degrés au soleil, 95% d'humidité, des crevaisons. Ouais. C'était pas rigolo, mais c'était super sympa.
Vous avez un conseil à lui donner, hein. Il est parti, je sais pas. Tu vas où d'ailleurs? Tu sais pas très bien où tu vas, toi, Paulin?
Y a un mec qui m'a contacté, un Belge qui suit mon blog.
Ouais.
Qui est arrivé à Natal aussi en bateau et qui m'a dit attends, je te rejoins, attends-moi quelques jours à Salvador et je te rejoins, on trace la route ensemble. Donc, du coup, là, je vais avoir un copain de route d'ici une semaine et on va tracer la route ensemble jusqu'à Rio.
Ah, bah c'est
génial.
Bien.
Ouais. Génial.
T'as une bouteille à la mer importante, non? Il te faut des pneus?
Je sais pas si ça va marcher, sinon je vais me faire livrer ici, ça va coûter un peu cher, mais bon, c'est pas grave. J'ai besoin de nouveaux pneus, il y a des gros trous dans les pneus, j'ai obligé de mettre des rustines sur le pneu. Il faut les changer. Après 8000 bornes, il est temps de les changer. Là.
Parce que vous aussi, vous avez dû changer de pneus 2000 fois on achète.
Ouais, alors comme le disait Morgan tout à l'heure, des fois on profite qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour nous apporter du matériel, mais ça marche pas tout le temps. Il y a un site internet qui s'appelle chainreactioncycles.com, je sais pas quoi, qui livre partout dans le monde, et je crois qu'ils ont des tarifs de livraison qui sont pas non plus excessifs. Donc pour Paulin, ça peut être une idée.
Nous a dit le nom, ça s'appelle chainreactioncycles.com quelque chose.
Donc en anglais. Chain Reaction Cycles.
Chain Reaction Cycles.
Ouais.
En un seul mot?
Ouais.
Ouais, c'est vraiment c'est le top pour être livré partout dans le monde de matériel technique. Quoi.
Mais chain comme change.
Chain.
Ah non, chain comme la chaîne.
Ouais.
Voilà. Chain Reaction. Cycles. On va le faire avec l'accent qu'il faut. Chain Reaction.
Cycle.
Cycle.com.
.com.
Voilà. Autant parler comme les Indiens. Chain Reaction Cycle Sir Point dot com. Voilà, tu te débrouilles avec ça. On va le trouver. Il y a Marion qui est en train de le chercher, qui va le trouver, qui va mettre le lien sur la page Facebook directement. Voilà. Donc le petit conseil. Et puis si quelqu'un va à Salvador, voilà, je lance la bouteille à la mer. Vous allez à Salvador. Combien de temps tu restes là-bas?
Oh, je vais rester une petite semaine, là j'ai des amis sur un bateau, il faut juste que je les trouve parce qu'il y a 10 marinas. J'épluche les marinas pour les trouver et après je vais pouvoir rester tranquille sur un bateau.
Ah d'accord, oui, donc il est à Salvador un mois et vous...
une semaine.
Si vous partez pour le Salvador là entre maintenant le 21 janvier et la fin janvier, contactez-nous ou contactez Paulin directement par la page Facebook et vous lui apportez des pneus, ce serait bien sympa de votre part. Paulin, ravi de t'avoir eu, merci beaucoup, on t'embrasse et t'as le soutien de Solid Dream, donc t'es tranquille, t'es baptisé avec ça.
Bon voyage mec,
bon courage.
On s'appelle du carnaval à Rio ou quelque part.
Bah quand tu veux, on est là tous les jours, Rio. Et dis donc, on a eu des nouvelles de Baptiste, vite fait, il pouvait pas passer, là, il t'embrasse, il va bien. Et voilà, il est toujours au Cap Vert, lui.
Ouais, je sais.
Ah, vous êtes en... d'accord. J'arrive jamais à vous avoir en même temps, on lui a parlé il y a une semaine, j'étais maintenant, un jour ou l'autre, Inch'Allah, on arrivera à vous avoir tous.
Allez, ciao, Solid Dream, ciao Eric.
Allez, salut, bonne route Paulin. Ouais. L'émission va se terminer, les gars. Alors, qu'est-ce qui vous arrive maintenant? Qu'est-ce qu'on devient quand on revient après une aventure pareille, magnifique, splendide, des images plein les yeux, des souvenirs plein la tête? Ça va? Vous allez bien? Moral est bon?
Ça va, ouais. La première chose que je dis sur le retour, c'est qu'on apprécie, en fait, le pays. On apprécie que la France soit un pays qui ne soit pas trop corrompu, où il y a des institutions qui fonctionnent.
T'as raté le coup de notre ministre du budget qui blanchissait de la thune, toi.
Mais non, je suis arrivé juste
à temps pour voir. C'est pour ça qu'il a dit pas trop, pas trop corrompu.
Non, mais grosso modo, avec un voyage comme ça, on apprend à apprécier les choses simples. Et il y a des pays où c'est très difficile d'avoir des choses simples dans la vie, d'avoir un minimum de sécurité, d'avoir des... Il y a plein de choses dont on pourrait parler. Et bon, voilà, on revient avec le sourire, en fait.
Ça va, vous avez la pêche.
Oui, on a la pêche, mais surtout, en fait, on n'est pas vraiment complètement rentré. Bien sûr, physiquement, on est rentré en France, mais en fait, nous, on continue de surfer sur la vague Solid Dream. On est aujourd'hui, on consacre 100% de notre temps à ça, en fait. Donc, à continuer de partager sous forme donc d'un livre où on a mis toute notre énergie pour sortir un livre de qualité, avec qui c'est différent de ce que vous trouvez sur Internet. Il faut savoir que le livre a été réécrit de zéro. Et il y a bien sûr les photos, il y a des photos inédites.
Magnifique, magnifique.
Et ensuite, maintenant, on travaille sur un long métrage. Et pareil, on ne va pas reprendre les films qu'on a mis sur Internet et les mettre bout à bout. On recommence de zéro. Donc, c'est Solid Dream, ça continue. Et nous, on vit encore avec Solid Dream. Et du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de déprimer. Et au contraire, on prépare de nouveaux projets.
Solid Dream, le livre chez Transboréal, sortie officielle du bouquin ce soir. Donc demain, il sera dans tous les réseaux de distribution de Transboréal, c'est-à-dire à peu près partout, je pense, les Fnac, tout ça.
Alors, il sera dans les réseaux de distribution à partir du mois de mars.
D'accord.
Et pour l'instant, on a l'exclusivité sur notre site internet.
D'accord, en tant que co-éditeur.
Voilà.
D'accord. Donc pour avoir le bouquin, pour l'instant, c'est par le site internet de Solid Dream. On mettra le lien, mais de toute façon, vous tapez Solid Dream sur un moteur de recherche, vous y arrivez tout seul.
Tout à fait.
Vous pouvez commander le livre, sinon, une petite piqûre de rappel, il suffit de nous rappeler. Quand il sort en librairie, on en fera la promo, bien sûr.
Merci.
On prendra des nouvelles du long métrage, donnez-nous. Puis j'espère pour vous que ça va durer, que vous allez recommencer, que tout ça va poursuivre, que vous enverrez plein d'autres Paulins partout dans le monde avec des vélos. Ouais. Et bravo encore, merci de nous avoir appelés plusieurs fois. C'était bien sympa de vous avoir dans l'émission. Une toute dernière chose, est-ce que la liberté vous manque?
Oui.
Moi, je me sens libre encore.
Merci à tous les deux, on se retrouve dans 23h exactement pour de nouvelles 60 minutes d'Allo la Planète. Pour nous joindre, la page Facebook évidemment, la bonne vieille boîte mail fonctionne, allolaplanete@radiofrance.com, et le répondeur téléphonique aussi, 331 56 40 54 54. Ciao touti.